Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 12, épisode 7. Longue citation pour commencer et une vraie cette fois. Il ne peut, à mes yeux, y avoir un cinéma qui serait politique qu'à la condition que les questionnements politiques qui sous-tendent les films soient portés par une forme, par le plein déploiement des techniques cinématographiques. Il n'existe pas de technique ou de forme cinématographique qui serait neutre en soi et qu'on pourrait utiliser indépendamment de son sujet. Il existe seulement des techniques qui nous paraissent neutres ou naturelles, qui sont ressenties comme telles. Mais l'idée même qu'il faille pendant un film sa construction est tout sauf neutre. Elle est une décision, voire une prise de position. Cela devient particulièrement problématique lorsque des réalisateurs prétendent exprimer un point de vue politique dissensuel avec les outils du cinéma industriel ou bien de la télévision. Ils utilisent alors, souvent par pure inconscience, des techniques et des processus narratifs politiquement déterminés au service du capitalisme qui annihileront toujours in fine la portée contestataire de leurs films. J'ai beaucoup de mal à comprendre comment, quand on se prétend un cinéaste engagé ou politique, on peut faire un cinéma qui utilise les codes dominants grifficiens, les codes de nos adversaires. Il n'y a pour moi rien de plus incongru qu'un film comme Bowling for Columbine de Michael Moore en 2002 qui s'abaisse au plan formel et narratif au niveau de la pire télévision. Ce cinéma-là, comme celui de Ken Loach, a peut-être un impact à court terme sur le spectateur, mais n'est-ce pas un peu superficiel? C'est en voulant imposer des sentiments et des ressentiments, en contraignant la réflexion, en cherchant à ce que les spectateurs aient une prise de conscience, que ce cinéma reste grifficien. Oui, vous êtes bien dans En attendant Godard sur Cinab. Et donc, après cette introduction laborieuse, excusez-moi, extrait d'un livre, un entretien croisé, des conversations entre Jean-Gabriel Perruot et Alain Brossat, Ce que peut le cinéma, qui a été édité en début d'année aux éditions de La Découverte. Donc, vous l'aurez compris, nous parlerons du nouveau film de Jean-Gabriel Perruot, Nos défaites, qui passe en ce moment à Rennes au TNB, si je ne m'abuse. Et après, nous parlerons de Joker, le film de Todd Phillips, qui secoue la planète cinéma en ce moment, en plus, encore plus depuis qu'il a été Lion d'or au dernier festival de Venise et qui était un choc lors de sa sortie américaine, déclenchant des semi-émeutes et des débats passionnés, ouais. À défaut d'être passionnants sur le cinéma, la politique et sur l'influence que peut avoir le cinéma sur les masses. Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Cylab et c'était les Cockney Rejects avec Fighting in the Street et de bagarre dans la rue. Il va en être plus ou moins question dans les divers films que nous allons aborder maintenant. En commençant par le nouveau long métrage de Jean-Gabriel Perruot, Nos défaites, que l'on connaît surtout pour son film réalisé il y a 4 ans, Une jeunesse allemande, sur la bande Bader-Meinhof, donc la RAF, la Rote Fraktion Armée en Allemagne, pendant les années de plomb, qui était un documentaire fascinant et vraiment formidable et très intéressant sur la manière dont justement il montrait les actions du groupe Bader-Meinhof et ses implications à la fois politiques et esthétiques.
On en avait parlé à l'émission justement.
Et Perruot était à Rennes il y a 2 semaines ou 3 semaines pour présenter son film au TNB à Rennes, où il passe d'ailleurs actuellement. Et donc le film est sous-titré « Avons-nous perdu la guerre ou seulement quelques batailles ?» Et le principe, en fait, c'est qu'il a été pendant un an, on va dire, je ne sais pas si on peut dire en résidence, mais en tout cas, il donnait cours au lycée Romain Rolland de Ivry-sur-Seine aux élèves de première option cinéma, donc de ce lycée, où ce qu'ils ont travaillé pendant l'année, c'est de prendre plusieurs films à caractère politique ou militant des années 60 et 70, donc des films sur mai 68, mais pas que, des films de Jean-Luc Godard comme La Chinoise, des films de Chris Marker, des films de Goupil, des films de Groot,
du traître Marin Karmitz,
des films du groupe Medvedkin, et donc le principe c'était
Iskra, Plomb, il y a tout le monde.
Le principe c'est du coup de les faire remettre en scène par les élèves en suivant les mêmes cadres, à peu près la même mise en scène que les captations de l'époque et que les films de l'époque, de les faire rejouer, filmer et mettre en son par les étudiants. Et donc après, Perruot interroge ses différents élèves sur différents propos et on va dire thématiques qui sont sous-tendues par les différents films qu'il rejoue, donc c'est-à-dire sur l'engagement, sur le syndicalisme, sur la politique. Que veulent dire toutes ces notions pour eux, sur la notion de bonheur, tout ça. Ce qui donne, je trouve, un film à la fois assez désarmant, hyper enthousiasmant sur plein de côtés, notamment sur la forme et sur le discours qu'ont quand même beaucoup de ces, beaucoup de ces gamins-là, et sur certains côtés assez terrifiant sur, sur ce que eux disent justement. J'ai à la fois vachement aimé la, quasiment les remakes qu'ils font de ces films-là, à la fois parce qu'en termes techniques c'est effectivement très beau, je trouve ça très bon, et les gamins jouent vraiment excessivement bien. Je trouve qu'ils ont tous une certaine vérité où ils arrivent à ressortir des choses que, d'un univers et de certains engagements duquel a priori ils sont quand même très éloignés, mais ils arrivent vraiment à s'emparer de ça pour le jouer et pour l'incarner d'une manière que je trouve très belle. Et la manière après dont Perriot les interroge et ce qui en ressort dans leur discours, je trouve ça assez terrifiant. Thibaut, toi aussi, mon cher, je sais que tu as beaucoup travaillé sur la question du cinéma politique, militant, engagé. Et Perriot, justement, là-dedans, traite beaucoup de ces thématiques-là.
Ouais, derrière l'apparente simplicité, donc la fausse simplicité en fait, du film, où en gros, on aurait un dispositif basé sur donc, deux entités, la relecture du cinéma militant par, par ces élèves-là, et puis leur, leur série d'entretiens. En fait, le film aurait pu aussi être sous-titré Une jeunesse française, à l'aune, en fait, d'un militantisme ou d'un syndicalisme qui est en train de se casser la figure en France à l'aune des échecs, des manifestations contre la loi travail par exemple, si on revient que dans une histoire très très poche. Et en effet le film, au début je comprenais pas le titre du film, en fait, Nos défaites, et en fait ces défaites là c'est quelque chose en fait qui insidue en fait la parole de ces gamins qui en fait sont pour la plupart du temps pas naïf, mais limite quasi blasé, et c'est assez ça fait flipper, en fait, tout simplement. C'est pas de la faute à ces gamins là pas du tout, hein, mais c'est qu'en fait il y a une telle chape de plomb dans l'environnement actuel que en fait ils se contentent de peu, et ce peu politiquement finalement n'est pas assez, parce qu'on s'en prend plein la gueule, si je prends de manière un peu plus élargie, on s'en prend plein la gueule, et en fait on... C'est pas qu'on laisse faire, mais les solutions en fait deviennent dures à exprimer, en fait, et c'est assez terrifiant, en fait.
Gal.
Alors du coup, moi j'étais allé à la projection avec Jean-Gabriel Perriot qui était présent, et sur le titre de Nos défaites, en fait, lui il explicitait ça après la projection sur le fait que pour lui c'est vraiment Nos défaites, ça ne concerne pas en fait les acteurs du film, c'est vraiment Nos défaites du monde adulte,
de la génération d'avant
et des autres générations d'avant, de ne pas avoir réussi à transmettre en quelque sorte le flambeau et surtout les outils de discussion,
les outils théoriques, intellectuels, pour pratiques.
Pouvoir avoir une réflexion sur la politique. Et du coup c'est vraiment sur ce qu'on voit, en fait, c'est pas tant... moi, je trouve pas ça déprimant du tout, dans le sens où c'est plus une méconnaissance de la terminologie, tu vois, politique, et une méconnaissance de la façon de parler pour pouvoir s'exprimer, mais il y a quand même plein de choses qui ressortent.
Ils sont vraiment très intéressants, parce que justement, certains, on voit qu'ils sont politisés à différents niveaux. Vraiment, on en voit certains qui ont quand même... on voit qu'ils baignent peut-être dans un environnement où la culture politique est beaucoup plus forte de par une certaine manière de parler, des éléments de langage maintenant, on dirait, ou la manière dont ils parlent de marxisme, de politique, d'engagement, alors que certains, on voit qu'ils sont vraiment naïfs et presque purs par rapport à ça. Et ce qui est du coup, c'est vraiment toute cette variété de discours chez les gamins qui viennent à peu près tous du même milieu, qui ont tous le même âge, et c'est sur la variété des discours qu'on va avoir, mais où ça sera jamais, peu importe les discours, ça sera jamais filmé, montré ou interrogé avec condescendance ou avec un certain mépris pour ceux qui, par exemple, seraient, moins politisés que les autres ou qui n'auraient pas le même niveau de langage.
Il est extrêmement bienveillant avec ses interlocuteurs.
En fait, ce qui est déprimant, c'est le miroir qui nous renvoie à nous, spectateurs adultes, sur notre
propre... nous, les yeuves.
Sur notre propre militantisme. Bien entendu, je ne juge pas du tout ces gamins qui ont un discours... ils savent très bien dans quel monde ils vivent. Hein. Derrière leur fraîcheur, il n'y a pas de naïveté. Voilà, peut être frais sans être naïf, et c'est exactement ce qu'ils sont. Mais voilà... En fait, c'est en ça que c'est déprimant. Et qu'en fait, ils ont pris conscience également du monde, de la chape de plomb qui existe, de l'épée de Damoclès, en fait, qui existe sur leur tête. Donc voilà, c'est en ça, en fait, qui est déprimant. C'est pas eux, c'est ces jeunes gens.
Complètement.
Ces jeunes filles font leur vie et vont tenter de faire leur vie quoi qu'il arrive. Mais
il y a un truc quand même qui est très intéressant, c'est que du coup, en fait, dans le choix des films qui ont été faits, enfin qui ont été refaits, du coup, en fait, dans son processus, Perriot, il a proposé une pluralité de films qui n'était pas juste circonscrit aux thématiques 68ard,
marxisme,
ou des choses comme ça. Il a vraiment présenté un éventail très large de films qui balayait toutes les époques, quoi. Et c'est les élèves qui ont choisi précisément. Des films des groupes Medvedkin, des choses comme ça et tout, et c'est eux sans qu'ils les incitent ni rien. Donc il y a quand même un inconscient derrière, tu vois, qui est déjà en train
qui
de jouer,
qui fait que ça les intéresse.
Ils ne comprennent pas ce qu'ils vont jouer, mais il y a déjà un truc qui se crée, quoi.
Ok.
Erwan.
Alors moi, ce qui est intéressant aussi, c'est que le fait que les gamins, ils sont pas comment dire, ils sont que le produit d'une société de 30 ans de comment dire, de rabattage libéral sur ça sert plus à rien de se battre, la gauche c'est réactionnaire, c'est ringard. Voilà, c'est ça aussi, c'est que ils sont aussi placés dans une situation où ils n'ont pas le choix de comment dire d'offre politique. Qui était le choix d'offre politique des années 70 où en dehors des partis de gouvernement il y avait quand même une très grande effervescence à la fois syndicale et militante. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui le militantisme, ça va être du militantisme
associatif.
Voilà, qui est détaché en fait, qui est pas détaché de la politique, mais qui s'inscrit plus dans un discours politique global. Si on prend le féminisme, je veux dire la réflexion sur la nourriture ou l'écologie, je pense que c'est
le
gros problème aujourd'hui. C'est que en fait,
SOS racisme qui était rattaché au PS, voilà.
Être forcément rattaché à un parti, mais rattaché à une idéologie politique. Et ça, je trouve que ça c'est un des gros problèmes aujourd'hui, c'est qu'en fait on a du militantisme parfois très fort. Mais dont la violence n'est plus du tout, dont la violence verbale n'est plus du tout articulée à un truc politique rationnel, c'est-à-dire que c'est devenu de la politique émotionnelle, et qui explique aussi que eux se sentent pas forcément concernés en fait par certains, c'est-à-dire que l'idée que tout est lié en fait, que le libéralisme, le patriarcat, le racisme, toutes ces structures là sont des structures qui sont liées les unes aux autres
avec les films de Manon Haute,
ça leur semble pas évident en fait, et c'est normal.
On en parlait la semaine dernière justement avec les films de Manon Haute, de Sandre de Brèze, où il y a plusieurs personnages qui disaient que justement la question de la lutte des classes et la question du prolétariat a totalement disparu du moindre discours politique.
Bah ouais,
ce qui du coup rejoint ces questions-là, parce que toutes les questions sur la lutte contre la maltraitance animale, sur le féminisme, tout ça en fait converge et est relié à des questions de lutte de classe aussi, quoi. Et vu qu'elle est totalement passée à l'as, forcément toutes les luttes sont beaucoup plus cloisonnées et du coup peuvent moins fonctionner et moins... être efficace, en tout cas, ressurgir dans des discours politiques.
Je suis pas forcément d'accord. Moi, je pense que c'est l'inverse. Elles sont plus efficaces comme ça, mais...
Moi, j'avoue que le cloisonnement me pose un problème dans la mesure où, on est passé dans une vision anglo-saxonne du militantisme, c'est-à-dire une vision communautariste où chacun défend un petit bout de terrain, sans jamais, mais avec des difficultés à relier ça à la question justement de la lutte des classes et à la question de l'exploitation des pauvres par les riches, qui reste pour moi, sans être marxiste, le fondement du fonctionnement de notre société. Et aujourd'hui, on est plutôt en train d'opposer telle personne qui croit en tel truc à telle personne qui croit pas en tel truc, telle personne qui fait mais telle personne qui fait pas assez. Et en fait, on est dans des micros, dans une vision microscopique du militantisme, alors qu'il faudrait probablement y ajouter aussi une vision
aussi
macroscopique, même si l'efficacité est peut-être au rendez-vous, par contre.
On se confronte à des questions aussi qui ont été engendrées par la globalisation. Je pense que l'État-nation, maintenant, c'est des choses qui sont révolues par rapport à... Maintenant, on pense le monde dans son entièreté. Et maintenant,
politique dans son entièreté, c'est ça le problème.
Voilà, c'est ça. Les politiques ont plus les politiques d'État ont plus de mal à se confronter à leur propre politique. Et du coup, font face à des questions qui sont encore plus larges. Et donc, forcément, ça fait émerger des conflits...
Et comme ces questions-là, mais par exemple l'écologie, ils n'osent pas les prendre à bras le corps parce qu'ils savent très bien que les prendre à bras le corps, ça voudrait dire avoir une transformation sociétale qui serait tellement importante qu'en termes d'élection, c'est pas possible.
Mais parce qu'on peut pas demander
ça aux gens, mais par contre, on sera pas élu. C'est ça le problème.
Voilà, c'est ça.
C'est ça le problème, c'est que les gens vous donneront pas le pouvoir pour les empêcher d'utiliser des bagnoles,
de
réduire la consommation de tel truc ou d'avoir une pensée qui soit, on va dire, non zémourienne, quoi. C'est ça qui est très compliqué. C'est ce qui est pas en vogue. C'est pas en vogue la gauche, c'est pas en vogue l'humanisme, c'est pas en vogue. C'est peut-être triste. Et c'est ça qui intéresse.
C'est pas en vogue. Hein. Ouais,
et c'est ça qui est intéressant justement sur ces gamins. Et moi, je pense que ça, c'est que malgré que ça soit pas en vogue, le fait qu'ils aient choisi ces extraits-là, ça veut dire que quelque part au fond, il y a quand même un fond d'inconscient, il y a un inconscient collectif où ça a existé et ça leur titille quelque chose chez eux.
Je pense que ces questions-là font régénérer d'autres questions. Ouais. Il y a d'autres formes de politique qui peuvent émerger.
Mais complètement. C'est intéressant de voir
justement. Du coup, c'est vraiment intéressant de donner la parole.
Oui. Moi j'ai trouvé super intéressant les élèves.
Non, je disais, c'est en ça que le film est intéressant et qu'on peut le voir en fait comme un miroir aussi avec une jeunesse allemande, je trouve, dans un sens où on se retrouve avec vraiment sur la didactique de la construction d'un discours politique et qui est se construit en réaction à un état, en réaction à quelque chose. Parce qu'en fait, dans le film, il y a vraiment deux parties. Donc il y a toute une partie, comme on racontait, qui est construite autour des remakes, plus
des reprises,
après des interrogations dessus. Et il y a une deuxième partie qui arrive à la fin.
Est-ce qu'on peut en parler
autrement. Oui.
Ça fait un peu spoiler parce que c'est une vraie surprise.
Mais c'est une partie en fait qui n'était pas prévue dans le film.
Ça sent hein, d'ailleurs. Ouais.
Un peu plus libre.
Il avait fini son film, il l'a monté, il l'a montré aux élèves. Et en fait,
et
à ce moment-là, il y a eu les événements qu'il y a eu à Mantes-la-Jolie. Avec les élèves qui se sont
fait arrêter par les flics, mettre au sol,
filmés dans des conditions juste atroces, quoi. Et lui, en fait, disait que face à ces images-là, il n'a pas pu rester sans rien faire. Il était obligé d'aller voir les élèves, retourner les voir pour les questionner là-dessus, pour essayer de comprendre ça. Il les a appelés, et en fait, quand il les a appelés, ils étaient en train de bloquer leur lycée, quoi.
Et bah. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir comment finalement les actes, même si il y a peut-être pas encore un lien direct en fait de prise de conscience, mais en fait comment finalement il y a la parole et au bout d'un moment il y a une pratique qui naît et qui n'est pas d'apprendre justement tellement la terminologie ou de se plonger dans l'histoire, mais qui naît tout simplement d'un refus de l'injustice. Et en fait, ce que je trouve qu'il montre bien le réel, c'est que ce sentiment de qu'il y a quelque chose qui est pas normal dans la manière dont le pouvoir public ou les forces publiques va se comporter, notamment avec la jeunesse, ça reste quand même quoi. Il y a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui coince quoi.
Oui, complètement. Voilà.
Qu'ils expriment pas trop dans les interviews, mais qu'ils expriment en acte finalement dans la.
En fait, c'est peut-être là la grande force. Du coup, en discutant, je relis un petit peu mon interprétation du film. C'est peut-être là la semaine dernière pour de Sandre et de Bresse, on parlait de contamination en fait du cinéma militant dans le matériau filmique comme une inscription dans un courant en fait un peu plus général du cinéma militant qui ne se restreint pas aux années 50, fin 70, on va dire ça comme ça pour être un peu grossier. Ici finalement la contamination elle vient du fait de ce que vous disiez en fait de comment en fait on prend à bras le corps des actes politiques et on va les inscrire nous-mêmes dans notre propre condition. C'est ça en fait, du coup c'est plutôt en fait, c'est pas que c'est malin, mais c'est inscrit en fait tout ce militantisme en fait dans cet inconscient collectif dont on parlait tout à l'heure. Et du coup en fait cette séquence finale en fait est hyper important, au-delà du fait que ces images ont été choquantes et le fait qu'il les retravaille, moi c'est du coup il y a le souvenir qui est extrêmement douloureux. Et moi ça m'a donné, enfin, j'ai chialé encore en revoyant ce truc quoi, mais voilà en fait la contamination en fait est hyper intéressante à ce niveau-là, la contamination.
Oui, parce que ça montre aussi que finalement la mécanique de la répression elle a pas changé, elle a pas évolué, elle a pas elle a beau se cacher derrière des discours, elle a beau se cacher derrière une idéologie libérale qui a réussi à convaincre les gens que finalement individuellement si ça va pas c'est de ma faute, enfin c'est de ta faute, et que l'État ne peut rien, que la collectivité peut rien, que les entreprises ne peuvent rien, qu'elles sont jamais responsables de rien, et c'est que c'était toujours l'individu qui est hyper responsabilisé dans et qui est hyper culpabilisé dans son
c'est
rapport
très
au monde.
Effectivement,
à mort quoi. C'est cette idée hyper individualiste et qui empêche justement toute forme qui tente en tout cas d'empêcher toute forme de pensée collective. Et c'est ça que je trouve très optimiste dans le film, c'est que malgré tout, enfin c'est comme une mauvaise
c'est
herbe.
Malgré tout en fait.
C'est comme une mauvaise herbe sous un trottoir quoi. Une mauvaise herbe sous un trottoir, elle trouvera toujours le moyen de pousser quoi, parce qu'on peut pas empêcher la nature de croître. Et ben là c'est un petit peu ça, on peut pas empêcher la révolte quelque part de croître.
On peut empêcher les rats de revenir à Paris.
Néanmoins, il y a quand même une vision du monde et un fatalisme. Ils ont conscience qu'on vit dans une société
mais ils ont raison,
inégalitaire.
Ils ont, quelque part, ils ont raison d'être fatalistes à mon avis.
Extrêmement raciste, mais il y a ce où il y a un vrai besoin de changement, mais ce changement, ils sentent que ce changement n'est n'est plus possible parce que la doctrine capitaliste a gagné, parce que ils le savent, et c'est ça qui est assez terrible. Il y a cette jeune fille qui dit c'est quoi le bonheur, c'est se contenter de ce qu'on a. Et c'est une phrase qui est
dans la bouche d'une jeune fille de 16 ans, tu dis
c'est terrible.
Ah ouais, mais non, cocotte, là, elle va l'apprendre par elle-même, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, quand on la voit interviewée dans la deuxième partie, son discours est plus le même.
Elle est un peu plus.
Ouais. Et tu sens qu'elle a gagné en voilà.
Elle a une clarté dans ce qu'elle dit.
Ouais, exactement.
Rien à voir avec ce qu'il y a au
début. Comme quoi, la violence des flics parfois ça fait effet, hein, mais pas comme ils le voudraient.
Non, exactement. En tout cas, ce qui est beau avec ce film, enfin moi je trouve, c'est que son dispositif fait vraiment sens, quoi. C'est-à-dire que ça rend les interrogations des élèves. On voit leur développement personnel et ça rend vraiment de façon tout à fait naturelle la construction de quelqu'un, d'une pensée en fait.
C'est ça aussi,
d'un groupe.
Que je trouve intéressant,
c'est quand même beau. Ouais. Et en plus, par miroir, ça nous fait quand même nous avoir une réflexion là-dessus. Nous, au même âge, qu'est-ce qu'on aurait dit ? Parce que finalement, quand même, il y a des questions qui sont quand même pas simples du tout.
Bah oui, c'est un côté assez ludique en fait, toi en tant que spectateur adulte, de répondre aux questions qu'il pose. En fait, t'aimes, qu'est-ce que je dirais et tout. Tu te rends compte de la difficulté de l'exercice. C'était 4 heures.
C'est là la bienveillance aussi pour moi du regard, c'est qu'en fait, il filme pas des gamins ignorants, il filme des gamins qui sont devenus, qui ont une potentialité.
Qui se posent des questions.
Voilà, qui ont une potentialité.
Et les gamins ont eu un droit de regard sur le film. Il les a questionnés et ils ont enlevé ce qu'ils voulaient enlever dans leur réponse.
Ouais, donc ils ont vraiment participé.
C'est collaboratif. Le film est signé Perriot, mais lui-même, j'en parle dans le texte d'intro que j'ai très mal lu, justement sur la question de faire du cinéma et sur comment tu les fais, avec quelle visée, quand tu fais un film qui est a priori militant, a priori engagé, il ne veut pas utiliser les mêmes armes justement que le cinéma dominant ou bien commercial. Donc justement, tu prends des biais différents et tu les fabriques aussi de manière différente. Ça rejoint pour le coup, parce que Perriot là-dessus, il est assez sur la même ligne que Godard, c'est tu fais pas des films politiques, tu fais des films politiquement. Et les films de période, que ce soit Une jeunesse allemande, ses courts-métrages ou bien celui-là, ça rejoint quand même la même idée de penser et de faire du cinéma quand tu veux faire un cinéma a priori à caractère soit engagé, soit politique.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il prénomme les intervenants à chaque fois, ces jeunes gens et ces jeunes filles, pour leur poser des questions à vocation beaucoup plus collective. Et c'est en fait intéressant, ce passage de l'individu au collectif, de manière pas insidieuse, mais ça reste assez naturel, mais tu vois très bien où le réalisateur va en venir. En fait, on passe d'une personne, toi tu t'appelles, je sais pas moi, Sébastien par exemple.
Jackson,
oui. Et on va passer sur un questionnement beaucoup plus élargi pour aussi éveiller les consciences, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Mais voilà, il y a ce passage de l'individu au collectif qui est hyper intéressant dans ce dispositif, hyper égalitaire. Et puis là, juste pour terminer, à chaque fois il laisse en fait la caméra tourner pour les voir. Et alors il y a les regards blancs, c'est extrêmement touchant.
Moi ça m'a rappelé des élèves que j'ai eu au lycée.
Je dirais pas que c'est trop mignon, mais
c'est Lolcat.
Oui, il y a beaucoup de bienveillance.
Nos défaites, le film Lolcat de Jean-Gabriel Perriot, voilà, en ce moment au TNB. Très très beau film qu'on vous recommande, comme le cinéma de manière générale de Jean-Gabriel Perriot. Et aussi, donc j'en parlais, le livre de conversation avec Alain Brossat, Ce que peut le cinéma, qui est paru en début d'année, où il y a beaucoup de choses extrêmement intéressantes. On va continuer dans le rayon politique, on va partir cette fois à Gotham City et au Kurdistan. Et donc pour souhaiter tout ça, une magnifique et belle chanson des combattants.